Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro de Game Changer, le podcast du média et webzine GoodMedisc. Le principe, vous commencez à le connaître et il est toujours aussi simple. Nous invitons des gens dont nous apprécions le travail, dont nous apprécions la vision, pour qu'ils ou elles nous parlent de ce qu'ils sont et de ce qu'ils font, en prenant pour point de départ un album qui a joué un rôle important dans leur vie ou dans leur carrière. C'est le fameux Game Changer qui donne son nom à ce programme. Pour ce nouveau numéro de Game Changer, j'accueille un petit nouveau en la personne d'Amaury. Oui, comme l'autre Amaury avec qui nous avons lancé ce podcast il y a une dizaine de numéros maintenant et qui, un peu à l'image des plus grands groupes de rock de tous les temps, a souhaité faire une pause pour une durée indéterminée. Alors on lui souhaite bien sûr le meilleur s'il nous écoute et puis aussi on souhaite bien sûr le meilleur à l'autre Amaury pour qui c'est aujourd'hui le baptême du feu. Salut Amaury, comment ça va ?
Ça va bien Jeff, content de rejoindre l'aventure Game Changer.
Pour ce nouveau numéro, nous accueillons Didier Gosset. Salut Didier, comment ça va ?
Bonjour Jeff, bonjour Amaury, ça va très bien.
Alors, si on a décidé de te lancer une invitation à la sortie de l'été, ce n'est pas un hasard. Alors, tu as de très nombreuses casquettes et on aura bien sûr le temps d'en reparler. Mais tu es notamment l'une des chevilles ouvrières de la FFWMB. Et derrière cet acronyme un peu barbare se cache la Fédération des Festivals de Musique Wallonie-Bruxelles, alors qui réunit des festivals aussi variés que le Dour Festival, que les Ardentes ou que les Francopholies de Spa. Bref, alors que la saison des festivals vient de se terminer, et je pense qu'elle a été encore une fois riche en rebondissements et en enseignements, on s'est dit que c'était le bon moment pour aller à ta rencontre. Mais j'en ai déjà trop dit parce que d'habitude dans Game Changer, c'est l'invité qui se présente. Alors, sans plus tarder Didier, je te passe la parole.
Merci. Mais voilà, donc je m'appelle Didier Gosset. Comme tu l'as dit, je suis porte-parole d'une fédération relativement neuve qui est la FFMWB. Je suis également coordinateur du Vecteur, qui est une plateforme culturelle pluridisciplinaire à Charleroi, en ville basse.
Et qui nous accueille aujourd'hui. On enregistre pour une fois, on a délocalisé pour une fois le numéro de ce podcast. D'ailleurs, merci Didier pour l'invitation.
Avec grand plaisir. Certaines personnes me connaissent aussi parce que j'ai pendant 14 ans travaillé pour Impala, qui est l'association européenne des maisons de disques indépendants. Donc là aussi une grosse fédération, ou comme certains le décrire, un lobby qui rassemble 6000 maisons de disques sur toute l'Europe géographique, donc Union européenne et hors Union européenne.
Et c'est quoi, pour que aussi nos auditeurs comprennent, c'est quoi les grands labels indépendants, peut-être des noms qui vont résonner.
Mais les gros labels indépendants, c'est par exemple le Beggars Group en Grande-Bretagne, au sein duquel on retrouve toute une série de plus petits, entre guillemets, labels comme Matador, comme Excel Recordings, etc. Ça peut être Because Music ou Vagram, par exemple, en France, Piasp en Belgique, ou par exemple K7 ou City Slang en Allemagne. Du beau monde, globalement. Et ça sur toute l'Europe. Et pour terminer ma présentation, j'ai aussi depuis 10 ans, et c'est un passe-temps chronophage, on va dire, moi-même, une toute petite maison de disques qui s'appelle Black Bassett Records. C'est que les gens peuvent peut-être connaître notamment via des sorties qu'on a fait avec des groupes comme La Jungle ou Chuller's Division.
Des groupes que l'on recommande effectivement très très chaudement. Écoute, merci Didier. Maintenant que les présentations sont faites, nous pouvons rentrer dans le vif du sujet et entamer ce nouvel épisode de Game Changer. C'est parti. Comme vous le savez, nous avons demandé à Didier de jeter son dévolu sur un album qui a beaucoup compter pour lui à un moment clé de sa vie, un disque qui va servir de point de départ à une discussion qu'on espère évidemment riche et variée, mais là-dessus j'ai pas trop de doutes. Et le titre de cet album, comme d'habitude, c'est l'invité qui a le privilège de nous le dévoiler. Donc Didier, on t'écoute, qu'as-tu choisi ?
Eh bien cet album, c'est Trompe le monde de Pixies.
Trompe le monde, ouais, soit le quatrième album du groupe américain qui sort en 1991 sur le label 4AD, 4AD, comme on dit chez nous. Alors, je t'avoue, Didier, que tu nous as fait plaisir parce que des choses à dire sur ce disque et sur ce groupe, je pense qu'il y en a énormément. Et puis surtout, pour te connaître un peu, j'aurais parié sur quelque chose d'un peu moins évident et d'un peu plus violent. Donc, tu nous as fait extrêmement plaisir. Mais ne perdons pas un seul instant et tournons-nous vers Amaury qui a pour mission de nous présenter le disque dont on va parler aujourd'hui. Amaury, on t'écoute.
Merci, Jeff. Alors, on est parti pour Trompe le monde. qui est le quatrième album du groupe américain Pixies. Il sort en septembre 91 et c'est le dernier échelon d'un incroyable run entamé en 87 avec l'EP Common Pilgrim et poursuivi avec les albums Surfer Rosa en 88, Doolittle en 89 et Bossa Nova en 90. Oui, on est sur 5 disques en 5 ans. C'est aussi le dernier album avant la séparation du groupe. Alors, revenons au début de l'histoire. On est au milieu des années 80, on est à Boston et on retrouve Frank Black, qui est fan des Beatles et de la pop des 60s, et Joe Santiago, qui est fan de punk et de David Bowie. Ils sont à l'université. Pendant 2 ans, ils vont se nourrir de leurs influences respectives. Et à la suite de 6 mois passés à Porto Rico, d'où l'emploi de l'espagnol dans certaines chansons, Frank convainc Joe qu'ils doivent stopper leurs études et fonder un groupe de rock. Ils vont passer une petite annonce dans le journal local pour chercher un bassiste qui doit être influencé à la fois par Husker Du, qui est un groupe de punk américain, et Peter, Paul and Mary, qui est un trio folk. Il y a une seule personne qui va répondre à l'annonce, et cette personne, c'est évidemment Kim Deal, qui est guitariste et qui n'a jamais touché une basse de sa vie. C'est elle qui propose David Lovering, un ami de son mari, comme batteur. On est en 86, et les Pixies, Lutin Espiègle en anglais, sont nés. Donc ils vont faire toute une série de concerts en première partie, ils sont repérés par 4AD et ils signent un premier EP, donc Common Pilgrim, qui va rester assez confidentiel. C'est surtout avec leurs 2 premiers albums, Surfer Rosa et Doolittle, que le groupe va complètement exploser et devenir une influence majeure pour plein d'artistes. On peut citer Billy Corgan, PJ Harvey, Damon Albarn et évidemment Kurt Cobain. Alors qu'est-ce qui fait le son Pixies? Moi, si je devais le résumer en un mot, je dirais la liberté. On a vu, ils ont des influences très vastes, ils ont des personnalités musicales très fortes, mais surtout, ils sont complètement décomplexés par rapport aux structures rythmiques, aux harmonies et à la façon de chanter. Et donc, ils proposent une musique qui est assez indomptable, qui peut être tantôt envoûtante, tantôt violente au sein d'un même morceau de 2 minutes. Et cette volonté de casser les codes, on la retrouve aussi du côté de la production, que ce soit d'abord avec Steve Albini, puis avec Gil Norton, qui vont par exemple remettre une batterie sèche et lourde au centre du jeu. Et c'est loin d'être une évidence dans les années 80. Donc les 2 albums sont des gros succès critiques et publics dans une moindre mesure, mais très vite ça va assez mal se passer entre Frank Black et Kim Deal. D'un côté on a la soif de contrôle et le côté maniaque du chanteur, et de l'autre on a l'envie de liberté de la bassiste. Le dernier concert de la tournée de Little est un véritable fiasco et le groupe décide de faire une pause durant laquelle Kim Deal crée les Breeders. 1 an plus tard, il se retrouve pour enregistrer Bossa Nova, puis l'album qui nous occupe aujourd'hui, Trompe le Monde. Frank Black explique que Trompe le Monde, c'est son disque de punk rock, après avoir fait un disque de surf rock avec Bossa Nova. Il compose et écrit quasi l'intégralité de l'album et ils enregistrent dans une ambiance délétère. Alors on retrouve le son très abrasif du début, mais le résumé du punk rock serait assez réducteur selon moi. Et on l'entend dès le début de l'album, la plage éponyme, Trompe le Monde, où on retrouve des envolées cosmiques délirantes au milieu des ovnis, la guitare de Black qui semble plus lourde que jamais, celle de Santiago fourmillante vient s'insérer dans chaque interstice, Lovering frappe fort et sec, et Kim Deal vient mettre de l'huile dans tous les rouages. Alors si l'album est vraiment assez fort dans son début, on a même quelques morceaux qui tirent quasiment sur le heavy metal, moi personnellement très vite je m'ennuie. Et je pense que je m'ennuie parce que Frank Black a mis la main sur le groupe et étouffe toutes les personnalités des musiciens. Et la preuve de ce contrôle total, c'est qu'on n'entend quasi pas Kim Deal, la voix de Kim Deal de l'album. Donc à la sortie, le disque est quand même un four et dans la foulée, les Pixies se séparent. Ils vont tomber quelque peu dans l'oubli, balayés par la vague du grunge qu'ils ont pourtant grandement inspiré. 12 ironies de l'histoire pour les lutins espiègles.
Bah merci Amaury pour cette première chronique dans Game Changer. Alors Didier, on va se tourner tout de suite vers toi évidemment. Amaury, lui, vient de nous raconter un peu l'histoire et la trajectoire des Pixies dans une longue chronique. Il nous a parlé de Trompe le Monde. Maintenant, moi j'aimerais que tu commences par peut-être nous résumer le disque en un seul et unique mot, en un seul et unique adjectif. Lui, il a parlé de liberté. Toi, si tu devais résumer Trompe le Monde en un mot, tu dirais quoi?
Je pense que ce serait très personnel, mais je dirais attendu.
Attendu. Ah ben, j'imagine qu'on va pouvoir en parler parce que moi, je t'avoue que personnellement, et là, on va directement rentrer dans un débat sur le contenu, sur le disque à proprement parler. Moi, j'aurais choisi étonnant. Alors, pas parce que le disque est étonnant, quoique il y a des choses à dire, parce que c'est plutôt le choix, moi, qui m'a étonné. Alors, je t'avoue que j'ai pensé à une analogie cinématographique qui était Le Parrain. C'est un peu comme si on avait fait un podcast cinéma que tu m'avais dit, je vais choisir mon film préféré, ce sera Le Parrain, mais ce sera Le Parrain 3. C'est-à-dire pas vraiment le meilleur, le plus respecté de la trilogie. Et toi ici, t'arrives avec Trompe le Monde, qui n'est pas non plus le disque le plus évident quand on parle des Pixies, non ?
Effectivement, c'est clairement, je pense pas, leur disque de référence. C'est un choix que j'ai posé nettement plus par rapport à l'impact qu'il a eu sur moi et qui est évidemment déterminé par sa date de sortie, ouais, et par mon âge à l'époque, tout simplement.
T'avais quel âge à l'époque ?
Quand Trompe le Monde sort, je viens tout juste d'avoir 16 ans. Okay. Et j'ai vu Pixies pour la première fois 2 mois avant à Torhout, qui était donc Torhout Werchter à l'époque.
L'ancêtre de Rock Werchter.
Voilà, donc pour les plus jeunes, l'époque où les gros festivals n'avaient qu'une seule et unique scène et proposaient la même affiche, donc le samedi à Torhout, donc près de la côte belge, et le dimanche à Werchter, qu'on ne présente plus. J'avais déjà écouté les albums de Pixies avant, je les avais sur cassette, parce que voilà... À l'époque, c'était une grosse question aussi d'argent de poche, d'acheter des disques et aller à la médiathèque, ramener tout ça et les enregistrer, même si on savait que c'était pas légal, on n'avait pas d'autre option, faisait que, voilà, acheter un CD, c'était quand même une décision assez militaire, on en parlait avec les copains, qui achète quoi, puisqu'évidemment c'était la logique, il fallait qu'on achète des choses différentes aussi pour pouvoir de même les transférer sur cassette et surtout ne pas devoir payer une location en plus à la médiathèque. Et donc voilà, moi, dans le contexte de l'époque, ce concert m'a très très fort marqué. On sait que l'album va sortir. Si je me souviens bien, il y a Planet of Sound qui sort en single avant la sortie de l'album, qui est assez renversant, voilà, pour le gamin que j'étais. On sort quand même d'une époque, il faut la remettre dans le contexte, 2 ans après, 2 ans avant. Je me souviens encore, et je parle d'une école secondaire de môme pour qui la grosse hype c'était Phil Collins. Donc ça donne une idée de l'époque. Ouais, ouais. C'est vraiment arrivé. Et là, la décision est prise d'aller chez le disquaire à midi pour acheter le disque. Et je pense que c'est là que c'est devenu mon game changer. Mm-hmm. C'est qu'on s'est regardé avec un copain en se disant, en fait, il faut qu'on écoute ce disque absolument tout de suite. Donc on ne retourne pas à l'école cet après-midi, on va retourner à la maison pour l'écouter. Et c'est ça qui, je pense, fait qu'à mes yeux, ce disque a eu autant d'impact. Sans doute pas tant pour ses qualités musicales, mais... Parce que voilà, il a sans doute été le premier chaînon d'une très très longue chaîne musicale en termes de développement de connaissances et de découvertes.
Et tu parles justement de ces disques, et je pense que tous les gens qui ont peut-être plus de 30 ans autour de cette table, c'est-à-dire tout le monde, donc je parle d'une époque qu'on connaît, est-ce que ça fait partie de ces disques qui n'étaient peut-être pas les plus grands disques, qui n'étaient peut-être pas le meilleur disque de cette année-là, mais qu'on se forçait à aimer parce qu'on avait finalement peu de disques chez soi, comme tu le dis toi-même, on devait faire des choix, on avait un budget qui était limité, parce qu'à l'époque, on se faisait quand même sérieusement entuber sur le prix d'un CD qu'on nous vendait une 20aine d'euros, alors que bon, je pense qu'à produire, ça devait en coûter même pas un. Et moi, j'ai souvenir à cette époque-là d'avoir certains disques qui sont devenus des disques de chevet, pas forcément pour leur qualité, juste parce que j'avais un nombre limité de CD chez moi, une 30aine, une 40aine, et je n'écoutais vraiment que ça en réalité.
Je pense que ça joue, ce facteur joue aussi. Je pense que voilà, il y a l'âge, l'adolescence, le moment où on commence à découvrir la musique. J'ai tendance à ne pas croire sur parole les gens qui me disent qu'ils ont commencé à 11 ans à écouter du black metal et que
je ne les crois pas non plus.
Ils sont rentrés directement là-dedans. Non, c'est très formateur et c'est sans doute pour ça aussi que ces albums sont marquants, c'est qu'ils correspondent à une découverte, à un son, une scène, ils posent des questions. Je crois que c'est aussi une époque où on passe énormément de temps à lire les notes de pochette, ce qu'on ne fait absolument plus maintenant, parce qu'en fait elles sont elles-mêmes un nid potentiel pour les découvertes. Qui est-ce qu'on remercie, qui a fait l'album, qui sont les musiciens. Donc voilà.
On va peut-être un peu embrayer sur le disque et réagir à certaines des choses qu'a dit Amaury dans sa chronique. Bah, il le dit, Trompe le Monde, c'est quand même la fin d'un enchaînement assez phénoménal de 4 albums. En 3 ans, on l'a dit, il y a Surfer Rosa, Doolittle, Bossa Nova, qui est un peu le triptyque des immenses classiques, et puis il y a Trompe le Monde. Toi, tu trouves pas déjà, à l'époque, ou peut-être aujourd'hui, avec le recul, que ça marquait un peu l'essoufflement du groupe? T'as cette sensation quand tu l'écoutes, ou tu es tout de suite conquis?
Alors, mes souvenirs de cette l'après-midi où j'aurais dû être à l'école et où j'écoutais ce disque-là, c'est qu'effectivement, je le trouvais pas super facile d'accès et un peu bordélique. Maintenant, c'est un album que j'aime toujours beaucoup, mais pour, je pense, des raisons purement affectives et ce qui représente dans mon parcours. Oui, j'imagine que globalement, il y a quand même pas mal de titres sur cet album qu'on pourrait considérer comme secondaires dans l'œuvre de Pixies, même si Pixies, après son comeback, s'est spécialisé dans les morceaux anecdotiques.
Nous y reviendrons.
Mais voilà, en fait, il y a quand même des morceaux qui sont super surprenants sur cet album, qui sont même inattendus pour Pixies. Il y a notamment, je pense à Motorway to Roswell, qui a une espèce de litanie au piano. Pour l'anecdote aussi, à l'époque, ça étant gamin, ça m'avait fort frappé. La version CD pour la Belgique est une version bonus. Je sais pas, est-ce qu'on essaie de nous faire croire qu'on était en Belgique des fans particulièrement importants. Et il y avait 4 morceaux live à Utrecht. Je pense au Tivoli à Utrecht. Ce que je trouvais génial, parce que voilà, j'avais l'impression qu'en achetant ça en Belgique, on avait une sorte de privilège. Bon, j'imagine que ce disque a dû sortir à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires et que ça n'avait absolument rien de limité. Mais voilà, c'est aussi des choses qui m'ont marqué à l'époque. Mais globalement, oui, c'est sans doute pas le chef-d'œuvre de Pixies, mais je le réécoute encore de temps en temps.
Parler de Trompe-le-Monde, c'est forcément parler de la désintégration des Pixies qui s'annonce. Amaury l'a très bien dit, et des carrières solo qui vont suivre. Alors la première question qui me vient à l'esprit, c'est en fait, quand on entend ce qui nous a été raconté, est-ce que Frank Black, c'était pas à la fois un génie, mais aussi un peu un connard, un peu dictatorial au sein des Pixies?
C'est une explication qui semble plausible sur base de ce qu'on lit dans la presse, oui.
Ouais. Et donc, quand finalement vous avez écouté, j'imagine comme tout le monde, les Breeders, quand on entendait le poids que pouvait avoir une Kim Deal, est-ce qu'on se dit pas qu'il y a eu quand même un énorme acte manqué et une énorme et une grossière erreur faite par Frank Black? Est-ce que les Pixies auraient gagné à avoir encore plus de Kim Deal?
Vraisemblablement, oui. Et effectivement, je pense que l'album du succès pour les Breeders, qui n'est pas leur premier album, si je me souviens bien, sort d'ailleurs type un an et demi après le dernier Pixies, assez rapidement.
Ouais, je pense moins que ça, ouais. Moi, je pense
assez
que
rapidement,
année,
et effectivement, suivante, ouais. Bon, c'est un carton mondial, hein, quasiment. On sent sa touche. C'est le moment où Frank Black, donc le chanteur des Pixies, se lance en solo, où je pense quand même que ces deux premiers albums sont relativement intéressants.
Ouais.
En tout cas, moi, même chose, je les écoute encore de temps en temps.
Les trois premiers, moi, mais je vais même jusque... Après,
ça commence un petit peu se perdre quand on tombe sur Frank Black and the Catholics, etc. Et j'imagine aussi que... Mais voilà, sur une dizaine d'années, cette décélération du côté de Frank Black va être le déclencheur pour un premier comeback qui se fait en 2005.
Ouais, tu vois, oui, c'est ça. Moi, je n'avais en tête que le comeback de je crois, 2013, quelque chose comme ça. Et puis surtout, je trouve que les Breeders, au-delà de disques d'excellente qualité, parce que on va aussi reparler dans un instant de la reformation des Pixies, mais en 2018, les Breeders sortent encore des disques. Le dernier date de 2018. C'est des disques de qualité. En tout cas, moi, je ne sais pas si vous les avez écoutés. Moi, je les écoute et ça reste des bons disques qui jouent à 2000% la corde. On est encore en 1995, mais ça reste des disques de qualité. Mais surtout, moi, ce que je remarque, c'est que les Breeders ont eu ce que les Pixies n'ont jamais eu. C'est un vrai tube planétaire, ce qui était à l'époque, en gros, un tube porté par MTV. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut. Pour pas mal de monde, je pense que les Breeders est un one-hit wonder. Il y a c'est Cannonball sur l'album Last Splash, qui est un tube de l'équivalent du Loser de Beck à cette époque-là, enfin même du Creep de Radiohead. Il y a beaucoup de gens pour qui les Breeders, c'est ce morceau et rien d'autre. Et peut-être que pour la légende des Pixies, il leur a peut-être manqué ce tube-là, non?
En tout cas, pendant leur existence. Parce
pendant
que
leur, de leur
ils
vivant.
Ont, ils auront eu un tube 10 ans après la sortie, évidemment, avec le Where Is My Mind, qui en fait devient culte grâce au Fight Club de Fincher. Et moi, je voulais te demander, quand toi qui connais bien les Pixies, quand ce hit-là sort, alors que les Pixies sont déjà finis et que je ne le trouve pas très représentatif de ce que fait le groupe, comment tu le ressens en fait? Genre, les gens découvrent les Pixies 10 ans après qu'ils aient sorti leur album et 6 ans après qu'ils se soient séparés.
Tu veux dire ce côté des gens qui vont s'approprier un groupe que toi, tu connaissais depuis bien longtemps?
Bon, là, je vais donner une réponse sans doute plus adulte. J'ai envie de dire tant mieux. J'imagine qu'à l'époque, en tant que gamin, c'est quelque chose qui m'avait quand même un peu tripatouillé. Oui, on était là les premiers, on écoutait ça avant, ce qui en fait était du bullshit total. On n'était pas du tout les premiers. Je vais dire, la première fois que je vois Pixies, on n'est pas vraiment tout seul. Hein.
Ils jouaient pas à 14h dans un festival.
Voilà, on n'était pas dans un bar de la banlieue de Verviers à 12 personnes, bien loin de là. Oui, c'est particulier, j'imagine, de découvrir une discographie sur base de ce qui est à la base plus une sorte de B-side qui complète certaines compilations et autres. Je sais pas, il faudrait demander à ces gens, est-ce qu'ils sont intéressés à l'intégralité de la discographie à cause de ce titre, et c'est sans doute eux qui ont la réponse.
La réponse, ouais. Pour revenir aussi un petit peu sur la personnalité de Frank Black, je pense que j'ai réécouté Pod, donc le premier album des Breeders.
Qui sort en 91, je pense.
Qui sort en 91, ouais. Pendant leur pause. Et je pense que l'album, il est vraiment très bon, il se réécoute vraiment très très bien. Et je pense que ça rend déjà hyper jaloux Frank Black. J'entendais aussi, enfin j'ai relu aussi que donc sur leur première tournée, il y a le morceau Gigantic, qui est en fait un peu le morceau préféré des foules à ce moment-là, et qui est écrit par Kim Deal, et ça rend déjà fou Frank Black. Donc on sent déjà toute la jalousie qui arrive.
Ça peut pas être simple en studio, je pense, avec lui.
Non, et le coup de maître en jalousie, c'est qu'il annonce la séparation du groupe en direct à la radio, à la BBC. Ils ne sont pas au courant. Il téléphone à Santiago et il envoie un fax à Deal et Lovering pour dire que le groupe est terminé.
Ça pose un peu en effet le personnage. On en revient sur la vie qu'on peut avoir sur Frank Black, même si je pense qu'il, ces dernières années, a quand même un peu fait amende honorable et dit bon, j'ai pas été quand même super cool avec ces gens. Mais je pense que Kim Deal a probablement dû avoir la dent dure, parce que je pense que quand il se reforme en 2013, elle est de l'aventure, mais ça va pas durer très longtemps. Je pense qu'un an après, elle quitte le navire. Mais ça, c'est peut-être parce qu'elle avait entendu les nouvelles compos de Frank Black sur le premier album de la reformation, qui était quand même loin d'être extraordinaire. Et justement, maintenant, tant qu'on parle de reformation, c'est quoi un peu votre avis, toi, on va commencer par toi, Didier, ton avis général sur les reformations, parce qu'on sait qu'aujourd'hui c'est devenu un business quand même assez florissant, surtout dans le rock.
C'est généralement une très très mauvaise idée. Ça surfe sur la nostalgie, ça justifie très souvent la sortie de nouveaux albums complètement anecdotiques qui visent simplement à recréer ce qui s'est passé 10, 15, 20 ans avant. J'ai en fait virtuellement quasiment aucun bon souvenir d'un comeback. Oui, j'imagine je pourrais trouver l'une ou l'autre exception. Je me souviens du comeback de Pulp qui joue à Dour en 2011-2012. Sur la scène hardcore, j'avais été complètement surpris par le comeback de City of Caterpillar qui rapplique avec un nouvel album super et qui rend des concerts absolument incroyables. Mais dans la grande majorité des cas,
il y a voilà, Blur aussi cet été. Si on peut prendre une reformation récente, eux au moins ils ont eu le mérite de sortir un album très correct cet été, d'avoir fait le taf. Mais c'est vrai qu'en venant ici dans le train avec Amoury, on a essayé de faire un peu un petit passage en revue des grandes reformations récentes. C'était quand même pas très glorieux, je pense, à Amoury.
Non, moi j'ai directement repensé à la reformation pathétique de Téléphone avec les insus, où on vient jouer à 50 ans argent trop cher alors qu'on est jury dans The Voice. Voilà.
Très compliqué.
Très compliqué.
Très compliqué. Puis bon, parfois, il y a aussi l'âge qui joue, parce que je pense aussi à Rage Against the Machine. Bon, outre le fait qu'ils ont été prendre très, 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 très cher pour un groupe qui avait quand même pendant longtemps porté certaines valeurs sur lesquelles on ne reviendra pas. Finalement, le petit Jésus a puni Zach de la Rocca parce qu'après 3 dates, le pauvre, il se pète le tendon d'Achille. Et je pense que la reformation de Rage Against the Machine, cette fois-ci, elle a été bel et bien enterrée. Mais moi, je pense quand même que les reformations, on déteste tout ça jusqu'au jour où un groupe qu'on adore se reforme. Et là, bizarrement, non. On n'a pas un peu de facilité à mettre de côté certaines réserves qu'on pourrait pas avoir.
Alors personnellement, je suis passé au-delà de ça. En fait, je pense m'être fait assez de mal d'aller voir mes mémoires de jeunesse se faire retourner et violer par les intéressés. Donc en fait, je me force mentalement à faire l'impasse.
Allez, on continue, parce que ce podcast, c'est quand même aussi parfois poser un peu des questions, on va dire, qui fâchent, en tout cas des questions qui vont provoquer des réponses qui ne font pas toujours plaisir à entendre. Donc le moment est venu quand même de parler un peu plus longuement de la reformation des Pixies, puis surtout des albums qui ont suivi, parce que pour rappel, les Pixies sortent encore des disques, sans Kim Deal, il faut le préciser, qui a quitté le navire, on l'a dit. Et donc ma question sera la suivante, qui ici a écouté des albums des Pixies? Et ce ne sont pas les occasions qui manquent, parce qu'ils ont quand même sorti la bagatelle de 4 depuis 2014, et le dernier, je pense, date de l'année dernière, il s'appelait Dogrel. Alors Didier, est-ce que tu as écouté ces nouveaux albums?
J'ai écouté les deux premiers. Enfin, les deux premiers post-comeback.
Et je vois dans ton regard que ça avait l'air compliqué.
Oui, voilà, ce sont des albums anecdotiques et on peut supputer que si ces albums n'étaient pas sortis avec tout le bagage, le nom, l'histoire du groupe, en fait, ils seraient vraisemblablement passés complètement sous le radar. Parce qu'ils ne sont pas particulièrement intéressants, qu'on ne sait pas si le groupe essaye de retrouver la formule qui a fait entre guillemets son succès ou tout au moins son histoire. Et voilà, en fait, au moment du comeback, je pense qu'il y a d'autres choses à écouter qui sont nettement plus excitantes.
Et t'as quand même tenté ta chance en live sur les dates du comeback?
Alors oui, j'ai un très long passif d'accident industriel avec les Pixies depuis 2005. Donc il y a un comeback en 2005 qui ne passe pas par la Belgique, si je me souviens bien, mais qui passe au Zénith de Paris, et où le lendemain, c'est un concert qui est un peu rentré dans l'anecdote, ils font au Parc des Princes de Paris la première partie des Red Hot Chili Peppers. Et avant les Red Hot Chili Peppers, il y a 5000 personnes qui quittent le stade avec des stewards qui hurlent « toute sortie est définitive » et plein de blagues sur le « tu crois quand même pas qu'on va rester à un concert de Red Hot Chili Peppers ». Tout ça en s'étant pris un concert de Pixies absolument exécrable, dans des conditions elles-mêmes exécrables. Il y a un comeback, je pense, en 2010-2011.
Moi, je pensais 2012-2013.
Et puis, il y a l'AB. Mais il y a les deux.
Moi, j'ai été à celui-là, moi.
Alors, l'AB, c'est absolument calamiteux.
Je confirme.
Là, je suis arrivé à un niveau de mon existence où je me suis dit, OK, entre la sensation de faim que j'ai en ce moment même et tout mon amour passé pour ces artistes, qu'est-ce que je vais choisir? Et ma réponse est, c'était un excellent repas. Et alors un petit peu par accident, parce que j'y étais pour raisons professionnelles, j'ai revu Pixies l'an dernier lors de leur passage au Cabaret Vert à Charleville-Mézières, où ils étaient sur la grande scène juste avant Slipknot, ce qui était déjà une affiche relativement osée. On va être honnête, ce concert de Pixies était aussi passionnant que faire la file à la poste. C'était dramatique. C'est cette impression que là, ils sont sur scène littéralement en train de cachetonner. Ils ont l'air de se faire chier puissance 10. Et il n'y a aucune valeur ajoutée. Alors, pour moi, ça m'a même été amplifié par le fait que je n'attendais rien du concert de Slipknot juste après, qui a rentré un concert absolument flamboyant, super surprenant, alors que finalement, eux aussi, ça fait 25 ans qu'ils sont là, et que je dois avouer ne pas m'être intéressé particulièrement à la discographie de Slipknot sur les 15 dernières années.
Mais eux ont pris le parti probablement de jouer uniquement sur la corde sensible de leurs grandes années, plutôt que de faire comme les Pixies, soit de faire semblant, soit de faire montre de problèmes créatifs assez évidents, et donc de sortir des albums qui n'ont aucun intérêt. Et moi, c'est plutôt ça ce qui aujourd'hui me dépasse avec les Pixies, c'est que ces 10 dernières années, je n'ai pas trouvé une seule personne qui m'ait dit « j'ai passé un bon moment à un concert des Pixies » ou « j'ai passé un bon moment en écoutant un nouvel album des Pixies ». Et pourtant, l'année dernière, je pense, ils étaient encore de tous les grands festivals en Europe. En tout cas, dans mon souvenir, leur dernier passage en Belgique, c'est Rockwerther. Je pense pas que Rockwerther a pour habitude de booker du petit groupe ou insignifiant ou vraiment pas très bon, quoique. Il y aurait peut-être débat à avoir là-dessus. Moi, ce qui m'étonne le plus avec les Pixies, c'est la capacité de ce groupe à être encore là et d'être encore si présent. Oh, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un ici, toi Didier qui connais j'imagine bien les peut-être un peu mieux que nous les coulisses de ce genre d'événement ou du milieu musical, comment est-ce qu'on peut expliquer cette présence?
Je pense que c'est simplement la carte de la nostalgie en plein qui fait vendre du ticket. Pour le reste, on peut toujours plus ou moins calculer quel est le taux de conversion entre guillemets entre un artiste et la vente de tickets. D'autant plus que maintenant on a des applications, on sait pourquoi les gens viennent en festival, quel est leur parcours, qui est-ce qu'ils veulent aller voir, qu'est-ce qu'on peut leur suggérer. Donc, une chose est certaine, les programmateurs de festivals ne sont pas des imbéciles. Il y a une raison très claire pour ça. Et de surcroît, bon, l'avantage aussi d'un public nostalgique, c'est que c'est forcément un public un petit peu plus âgé. On parle de cadra, de quinca, et c'est un public qui a un pouvoir d'achat nettement plus consistant que des mômes de 19 ans.
C'est un fait.
Mais du coup, tu vois, moi je les ai vus à Dour aussi. C'était vraiment, vraiment pas terrible. Mais maintenant, si je les vois sur une affiche, ça ne va plus être un moteur de conversion, justement.
Oui, le taux de conversion ne va pas être...
Mais tu penses que la nostalgie est tellement toujours... forte que ouais. des gens apprécient quand même de voir les Pixies, même si c'est plus que l'ombre d'eux-mêmes?
Je pense que globalement, et ce n'est pas limité aux Pixies, on a toute une série d'artistes qui peuvent faire des formules aussi un petit peu greatest hits et qui vont avoir un réservoir de public tellement conséquent que oui, on peut sans doute tirer ça très très longtemps. Tu parlais un petit peu plus tôt du comeback de Téléphone. Enfin, rien que de le dire, c'était déjà une mauvaise idée. Hein. Et ça a fait un carton, c'était des cachets absolument phénoménaux et je pense qu'ils auraient pu facilement tripler ou quadrupler le nombre de dates.
Et puis n'oublions pas que dans le cas des quarantenaires, et je m'inclus dans cette catégorie évidemment, le meilleur déterminant du taux de conversion est la disponibilité de la babysitter ce jour-là. Hein. Faut jamais oublier, et ça les algorithmes ont un peu du mal à pouvoir le prévoir évidemment.
Et de l'ostéopathe le lundi pour les concerts un petit peu plus nerveux.
Exactement. Alors Didier, on va faire une sorte de petite pause maintenant, tout en continuant bien évidemment à parler de musique. Alors je t'explique, chaque épisode de Game Changer, c'est l'occasion de replonger dans les archives de l'année qui nous occupe, donc là on est en 1991, et d'en extraire trois disques marquants. On en discute brièvement, et puis ensuite, chacun choisit son préféré, son petit chouchou en toute subjectivité. On y va. Alors on commence directement par, je vais dire du lourd, on commence par U2 et Achtung Baby, qui sort donc en novembre 1991. Alors, c'est jamais simple de parler de U2, parce que je pense que pour tout le monde autour de cette table, bah, U2 c'est un peu l'incarnation ultime du groupe incapable de siffler la fin de la récré. D'ailleurs, avec eux, la récré, elle est vraiment loin d'être terminée. J'imagine que vous avez tous entendu parler de leur résidence qui va débuter à Las Vegas dans un dôme immense de 17 500 personnes qui a quand même coûté plus de 2 milliards de dollars. Ça fait beaucoup d'argent quand même pour U2. D'ailleurs, en préparant cette émission, j'ai lu que les premières dates dans ce fameux dôme à Las Vegas, où on attend quand même de l'entertainment, elles seront précisément consacrées à une revisitation de cet album, Achtung Baby. Ce qui est un peu bizarre, parce que quand on parle de U2, pour le public qui sauve des places de concert à Vegas qui coûtent des centaines de dollars, c'est pas forcément ce disque-là qui va sortir directement du chapeau. Alors, bon, ça, c'est un autre débat. En tout cas, si on peut dire beaucoup de vilaines choses autour de U2, on doit aussi pouvoir... de temps en temps battre notre coulpe et dire du bien de Bono et de ses copains, et notamment de cet album. C'est le septième du groupe. Il est produit par l'immense Brian Eno, qu'on ne présente plus, et par Daniel Lanois, qui lui a été longtemps une éminence grise au sein du groupe. Et puis, bah, je pense que c'est le premier album de U2 sur lequel le groupe se réinventent. Ils vont un peu tourner, enfin, en partie évidemment, le dos aux hymnes pour Stade, pour embrasser une vision qu'on va dire moins binaire, moins simpliste du rock, avec des nouvelles influences qui vont aller chercher du côté de la musique orientale, de la musique industrielle, de la musique électronique. Bref, c'est une mue temporaire, c'est vrai, mais c'est une mue réussie quand même. Mais en même temps, comment pouvait-il en être autrement pour un album dont l'acte de naissance indique les studios Hansa de Berlin, là où David Bowie a enregistré Low, là où Iggy Pop a enregistré The Idiot. Alors j'aurais qu'une question pour vous, évidemment. S'agit-il du seul album de la carrière de U2 qui soit véritablement digne de notre intérêt?
C'est assez amusant parce que je garde un souvenir très clair de la sortie de cet album, qui est ultra poussé par MTV, donc qui à l'époque est totalement prescripteur. Donc il faut déjà accepter le concept qu'il y avait de la musique sur MTV à l'époque.
C'est le single de Fly, je pense, c'est pas ça.
Il y a The Fly que je ne tenterai pas de décrire, tout simplement, qui est suivi par une espèce de slow crapuleux pour soirée étudiante et discothèque de province, qui est One.
On sent que Didier aime U2.
Et il y a aussi, et malheureusement je ne me souviens plus du titre, mais par contre visuellement je me souviens très bien du clip avec une dame qui fait de la danse du ventre, qui doit être le deuxième ou troisième single sur cet album-là. Qui était déjà très
Mysterious
mauvais.
Mysterious Ways, c'est pas celui-là.
C'est fort possible.
Avec la guitare arabisante comme ça.
Oui, voilà. Genre, on avait de l'argent en studio, quoi. Non, je sais pas.
L'argent n'a jamais été un problème pour U2, faut savoir reconnaître.
Hein. Non, rappelons qu'ils avaient quand même poussé le vice beaucoup plus tard, jusqu'à offrir leur album dans les comptes iTunes de la planète.
On va essayer d'oublier ce moment très compliqué pour U2.
Donc, est-ce que c'est un album digne d'intérêt? Ben, j'imagine que pour les fans de U2, ils sont quand même relativement nombreux. Oui, en ce qui me concerne, non. J'ai d'ailleurs souvent fait cette blague. Si U2 improvisait un concert dans mon jardin, je le confirme, j'appelle la police.
Allez, on va plus reparler de ce moment douloureux, je le vois, Didier. Et on va passer alors au deuxième choix, la deuxième proposition, c'est Laughingstock, qui est le cinquième et dernier album d'un groupe important, à la trajectoire improbable, et ce groupe, c'est Talk Talk. Parce que oui, il faut bien se dire que Talk Talk, en même pas 10 ans, c'est un groupe qui est passé du statut de faiseur de tubes. Je pense qu'on a tous entendu au moins une fois dans notre vie le morceau It's My Life. Et il passe donc de ce statut de faiseur de tubes à celui d'inventeur malgré lui du post-rock. Oui, parce que le post-rock, les deux grands disques fondateurs du post-rock, semble-t-il, seraient Laughingstock de Talk Talk et Spiderland de Slint. C'est en tout cas ce que racontent les livres d'histoire. Donc, Laughingstock en français, ça se traduit par la risée, ça veut dire se couvrir de ridicule. Alors le groupe, lui, s'est jamais couvert de ridicule, mais par contre, beaucoup de monde à l'époque a remis en question le désir de Mark Hollis, qui était le chanteur et le cerveau du groupe, d'aller vers des structures toujours plus complexes, toujours plus inhabituelles pour l'époque. Parce que voilà, Talk Talk, c'est vraiment une certaine vision de la radicalité dans la pop, au service d'une musique qui met vraiment le minimalisme et les silences au cœur du processus créatif. Alors, à l'époque, Mark Hollis, il va citer en exemple et en influence Tagomago de Can, donc un disque de krautrock. Il va citer In a Sentimental Mood de John Coltrane, un disque de jazz. Et il va citer New Morning de Bob Dylan, donc plutôt un disque de folk. Ce qui en dit long, je pense, sur les ambitions du projet. Alors, s'il citait ces noms, c'était moins pour la musique, je pense, que pour l'honnêteté de la démarche, qui se ressent vraiment dans un disque qui a été totalement incompris au moment de sa sortie, alors qu'aujourd'hui, je pense qu'il est vraiment considéré partout comme l'un des plus beaux albums de tous les temps. Et on termine avec une troisième proposition pour vous deux, c'est Goat de Jesus Lizard. Donc à l'époque, le concept de Goat dont on nous parle partout, à savoir le greatest of all time, bon, c'est un concept qui n'existait pas. Le Goat du titre, c'est juste une bonne vieille chèvre. Voilà. Alors pourtant, dans la catégorie noise rock, qui est la catégorie de ce disque, je pense qu'on tient peut-être justement un fameux Goat, hein, un des très grands disques de noise rock de ces 50 dernières années. Alors bon, c'est clair qu'encore aujourd'hui, on peut se dire qu'il y a de la concurrence qu'on peut aller chercher du côté de Sonic Youth, de Swans, des Boredoms. Mais voilà, Goat, ça reste quand même un disque avec des guitares qui la serrent, une batterie et une basse qui assomme, et puis surtout un chanteur dont on se demande parfois s'il est dans une cabine d'enregistrement ou dans un asile de fous. Et puis surtout, on retrouve à la production de ce disque un certain Steve Albini qui a régulièrement côtoyé dans les studios les Pixies dont on a parlé aujourd'hui. Et David Yeo, aujourd'hui, il a la soixantaine bien tassée et il s'est un petit peu calmé, c'est vrai. Mais The Jesus Lizard a longtemps figuré dans cette liste de groupes absolument à voir avant de mourir. Et c'est vrai que pour avoir vu le groupe une fois dans ma vie, je peux confirmer que c'était un groupe à voir absolument. Alors vous, justement, petite question pour vous deux, Didier et Amaury, si vous deviez conseiller à nos auditeurs un groupe ou un artiste à voir absolument avant de mourir, ce serait qui ?
Alors, ce serait peut-être un petit peu moins foufou que Jesus Lizard, mais plus proche de chez nous. Un artiste dont je n'ai jamais compris qui n'ait pas plus de succès que ça en Belgique est un artiste luxembourgeois, donc alors ça ne sonne pas super sexy, qui est Rome, un projet solo de Jérôme Reuter, donc du dark folk, qui passe quand même en Belgique de temps à autre, mais pas grand-chose comparé à l'échelle de ses tournées européennes et mondiales. Je pense que ça ne s'explique pas. Il faut le voir, simplement. Une expérience, réellement.
Une expérience. Et toi, Amaury, une expérience ?
Moi, j'ai été beaucoup moins pointu parce que je sais quels étaient mes interlocuteurs aujourd'hui. Moi, j'ai un remords éternel, c'est qu'en 2008, aux Ardents, je n'ai pas été voir Bachung. alors que c'est un chanteur que j'adorais. Et donc, je me suis dit après de ne pas laisser passer quand il y avait des légendes qui venaient. Mmh. Donc, j'ai été voir Springsteen, Neil Young, en français, Véronique Sanson, voire même Johnny Hallyday. Ne me jugez pas.
Non, non, non.
Et celui qui m'a fait la plus grande impression et que je trouve que tout le monde devrait aller voir, c'est l'évidence même, c'est Paul McCartney. Et donc, voilà, c'est un concert, il y a une énergie, il y a une présence. C'est un vrai concert, c'est pas au rabais. Il y a de la générosité, la voix est intacte, le jeu aussi. C'est assisté à 60 ans d'histoire du rock et de la pop. Il a 81 ans, Paul McCartney. Il repart en tournée. Il est en Océanie, il sera sans doute en Europe l'année prochaine. C'est peut-être la dernière fois. Ne le ratez peut-être pas.
Ah, tu l'as déjà vu, toi, Didier ?
Non.
Moi non plus. Mais est-ce que tu aimerais bien le voir ?
Pourquoi pas ?
Ça ne te dérangerait pas.
Si possible, à un prix qui ne ressemble pas à une mensualité de loyer.
Mais voilà. Oui, ça risque d'être le problème principal dans ce genre de concert. Allez, moi, si je dois en conseiller un, mais les gens qui me connaissent savent que c'est une marotte à moi. C'est ce formidable groupe qu'on a tous vu, je pense, ici autour de cette table, qui s'appelle France, que trop peu de gens ont vu, même si c'est vrai que la proposition est quelque peu radicale, on va dire. C'est un trio basse, batterie et vielle à roue, un morceau qui dure entre, je sais pas, quand tu les as vus, Didier, ils ont joué combien de temps ce morceau ?
Moi, la dernière fois, ça a duré une heure dix. C'est un concert assez historique d'ailleurs dans l'histoire du Vecteur, où on se trouve, parce que c'est un concert qui avait été fait ici en extramuros dans un ancien centre d'entraînement de tir, donc un champ de tir qui était utilisé jusque dans les années 80 par l'armée et la gendarmerie, qui est aussi un lieu de mémoire, parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a malheureusement des résistants qui ont été abattus là par les forces d'occupation allemandes. Mais donc voilà le lieu, l'ambiance, la météo, parce que c'était au mois de décembre, il faisait horriblement froid, mais on pouvait faire du feu, tout était absolument magique, donc c'est quand même un des très très gros souvenirs au Vecteur.
Ah bah écoute, ils avaient joué la veille de cette date au Vecteur, à nos 10 ans, aux 10 ans de Goutte Mes Disques, ils étaient à Bruxelles, et c'est vrai que c'est une expérience, on va dire c'est une expérience totale, un truc qu'il faut voir au moins une fois dans sa vie. Si après 10 minutes vous n'êtes pas dans le trip, parce que c'est un mélange de kraut, drone, enfin c'est vraiment quelque chose d'indescriptible, c'est juste une proposition d'une radicalité absolument dingue. Si après 10 minutes vous vous dites c'est pas pour moi, faut se barrer. Et généralement, si après un quart d'heure, 20 minutes, vous êtes toujours là, vous serez là pour l'heure 70, 80 ou 90 minutes que peuvent durer un concert de France, parce que c'est vraiment quelque chose d'absolument fou, selon moi. Mais le moment est maintenant venu. Vous allez devoir choisir parmi un de ces disques. Donc, je vous rappelle, vous pouvez choisir entre le Achtung Baby de U2, vous pouvez choisir avec également le Goat de Jesus Lizard, ou la dernière proposition qui est le Laughingstock de Talk Talk. Allez, on commence par toi, Amaury.
Pour le podcast, j'ai été découvert le Talk Talk, qui est effectivement incroyable, mais je reste sur le Achtung Baby de U2.
Didier ?
Moi, je vais prendre Jesus Lizard.
Ben, c'est magnifique, parce que moi, j'allais effectivement prendre Talk Talk, groupe que j'ai découvert un peu trop tardivement, mais que je conseille vraiment à tout le monde, parce que c'est magnifique. Fic. Allez, on attaque maintenant la seconde partie de ce podcast qui va nous permettre d'en apprendre un peu plus sur Didier et ses nombreuses activités aujourd'hui. Alors, on l'a dit en introduction de ce podcast, Didier, tu joues un rôle de premier plan, tu es porte-parole donc de la Fédération des festivals de musique de Wallonie-Bruxelles. Et la première question qui me vient un peu à l'esprit, c'est: pourquoi est-ce que les festivals se fédèrent au sein d'une organisation alors que nous, vu de l'extérieur, on a un peu l'impression qu'il n'y a pas plus carnassier et concurrentiel comme milieu ?
Alors la réponse est relativement simple en ce qui concerne la fédération francophone des festivals. C'est une fédération relativement jeune qui s'est constituée en plein milieu de la crise Covid, quand je pense tout le monde a compris qu'on avait un ennemi commun, et qu'on était dans une situation particulièrement précaire, puisqu'on a rapidement compris également qu'avec des réouvertures segmentées des différents secteurs de la vie de tous les jours, mais les événements de masse allaient être les derniers à rouvrir. Et donc c'est constitué une forme d'union sacrée à ce moment-là. Donc la fédération, elle voit le jour en septembre 2000, à l'initiative de 12 des plus gros festivals sur le territoire, donc Dour, Les Ardentes, La Semo, Esperanza, Couleur Café, Les Francopholies et j'en passe. Elle a bien grandi depuis. Il faut savoir qu'effectivement, ces deux années de pandémie ont été une sorte de combat politique et financier de tous les jours. Voilà, c'est vrai que depuis la fin de la pandémie, l'aspect concurrentiel, ces fameuses clauses d'exclusivité qui sont financières, géographiques et temporelles, ont sans doute fait ressurgir de vieilles habitudes. Maintenant, c'est assez intéressant de voir qu'il y a une fédération des festivals côté néerlandophone en Belgique, qui est nettement plus ancienne, puisqu'elle existe depuis 2003, donc ça fait 20 ans, qui est nettement plus grosse également, puisqu'elle a plus de 250 membres, et pour laquelle il y a comme toujours un terrain d'entente. Alors évidemment, il y a des réalités très différentes entre des petits festivals organisés au fin fond de la Flandre occidentale ou de la province de Luxembourg par des ASBL devant 200 personnes, et les festivals du fameux G5, comme on l'appelle en Belgique, donc Tomorrowland, Werchter, Pukkelpop, Graspop, Dour. Mais quand on parle, par exemple, de financement de la culture, de questions financières, tout le monde peut avoir un intérêt à ces problématiques.
Et une petite parenthèse, ce G5, qui en détermine la composition?
C'est un groupe informel qui, à un moment, a choisi de se rassembler en groupe restreint, qui a été privilégié à certains moments comme interlocuteur par le gouvernement fédéral aussi, parce que voilà, c'était le problème, parler à des secteurs entiers qui sont les personnes les plus représentatives. Voilà, je pense pas qu'il y ait un quelconque accord signé comme quoi le G5 serait ce qu'il est. C'est vrai qu'on pourrait même poser la question avec la croissance des Ardentes en Wallonie. Oui. Est-ce que la couronne de numéro 1 wallon pourrait basculer prochainement, enfin, en tout cas ce ne sera pas cette année, la météo en a décidé ainsi. Mais voilà, ce sont des groupes informels qui visent à échanger sur des thématiques communes et des solutions pour faire face à des problèmes communs.
Et tu as évoqué le combat contre cet ennemi pendant la pandémie. Alors est-ce qu'aujourd'hui le combat il continue et ils sont à chercher de quel côté les problèmes, les ennemis que pourrait aujourd'hui rencontrer une fédération comme la tienne ou n'importe quelle autre? Alors, finalement, c'est... fédération de festival, parce que j'imagine que les problèmes sont un peu les mêmes partout en Europe, non?
Oui, il y en a énormément. Bon, déjà on est dans un secteur où il y a une inflation absolument galopante. Cette inflation, on la voit dans la vie de tous les jours, mais elle est très marquée pour les festivals, notamment sur les prix de location de matériel, parce que voilà, la majorité des festivals ne sont pas propriétaires du matériel qui est utilisé sur leur site. On a cette grosse question post-pandémie de pénurie de techniciens. Il y a énormément de gens qui, finalement, lâchés de toutes parts pendant la pandémie, se sont réorientés dans d'autres secteurs. Donc moins de techniciens pour un volume revenu à la normale de travail, ça pose effectivement la question de l'augmentation des tarifs. Elle est compréhensible, mais elle pose problème. Inflation des cachets artistiques, et puis voilà, toute une série, comme n'importe quelle fédération professionnelle, toute une série de soucis sectoriels qui peuvent aller de négociations avec la SABAM à des questions de TVA, des questions de taxation, des questions de droit du travail, qui ne sont pas nécessairement les sujets les plus sexy, mais qui ont un impact financier réel sur toutes les structures.
Et on a beaucoup parlé avec les annulations cet été des assurances aussi. J'imagine que ça va commencer à poser beaucoup de questions, ces annulations dues aux conditions climatiques.
Tu fais référence ici aux Ardentes qui ont dû, je pense que tout le monde en a entendu parler, annuler leur dernier jour, un peu en dernière minute.
Et sur une décision prise par un tiers, hein, donc c'est important de le souligner, c'est pas une décision qui a été prise par la direction du festival, mais qui a été prise par la province et la ville sur base de prévisions météo.
Mais est-ce que c'est un événement qui va faire date dans la façon aussi dont les organisations doivent gérer leur contrat d'assurance, avec peut-être aussi une influence sur les primes qu'ils vont devoir payer?
Alors malheureusement, la question des assurances, elle se pose de manière brûlante depuis plusieurs années déjà, parce qu'effectivement, voilà, il n'y a aucun doute, tous les festivals souscrivent les assurances qu'on pourra attendre de leur part, les responsabilités civiles, etc. Jurisprudence, j'ai envie de dire, plus que le pop, personne n'a oublié ce que
2013,
ça pouvait être une catastrophe 2011. Météorologique qui amène des morts.
2011
sur site.
Ou 2013
C'est 2011.
2011,
j'y étais.
C'est 2011.
On n'oublie pas.
Ce qui s'est passé depuis la pandémie, où voilà, les assureurs n'étaient pas complètement fous, on était dans des situations, tout le monde s'en souvient, les règles à appliquer changeaient toutes les semaines, faire du planning à un mois, c'était incroyable, donc faire un planning à l'année comme un festival de musique, ça devenait complètement démentiel. les assurances d'hydreint, donc les contrats annulation tout risque, qui sont censés couvrir effectivement tous les types d'annulations, depuis les attaques terroristes jusqu'à un tremblement de terre, des faits météorologiques majeurs, une guerre ou que sais-je encore, elles sont devenues complètement impayables. Le risque était colossal en termes de Covid à l'époque pour les assureurs. Et forcément, les festivals ont commencé par ne plus souscrire à cette sorte de super assurance qui vient quelque part se placer comme fêtière au-dessus de toutes les autres assurances, à un tel point qu'à l'heure actuelle, ce type d'assurance, il y a virtuellement plus de courtiers en Belgique qui la proposent, que pour les souscrire, il faut aller chez des assureurs étrangers, ce qui déjà pose la question d'une fuite de fonds de la Belgique vers d'autres pays, qui sont souvent la France et la Grande-Bretagne. Et l'ironie voudra qu'un des rares festivals à encore souscrire à ce type d'assurance est le festival dont nous parlons, les Ardentes, qui a donc eu une annulation de ce type. Et je vais vous épargner les détails techniques, mais je pense que tout le monde peut imaginer que s'il y a eu un temps d'attente sur la communication vis-à-vis des festivaliers, c'est parce qu'il y a eu un temps de latence dans les discussions avec les assureurs. C'est une question qui se pose déjà en termes de circulation de fonds. C'est un peu dommage que potentiellement tous les festivals belges doivent aller chercher ça ailleurs. Mais ce sont des garanties qui virtuellement sont devenues impayables, en ce sens qu'elles peuvent mettre le bilan global d'un festival dans le rouge.
Mais on peut surtout penser que ça ne va pas aller en s'améliorant, parce que malheureusement le changement climatique est une réalité. Alors on a évoqué la catastrophe du Pukkelpop en 2011, là je pense qu'on était sur un événement climatique exceptionnel, imprévisible, et là c'était vraiment le mauvais endroit et le mauvais moment. Par contre, les chaleurs extrêmes, les événements climatiques extrêmes, ça va devenir malheureusement quelque chose d'assez habituel. Donc on peut imaginer qu'en termes justement d'assurance, de couverture, et donc in fine de répercussions sur le prix que l'on va facturer aux clients, aux festivaliers, ça risque d'être problématique. En tout cas, est-ce qu'une fédération comme la vôtre entrevoit un avenir difficile à ce niveau-là ?
Disons que cette question effectivement d'assurance et surtout de mutualisation d'assurance et de mutualisation de moyens, même globalement, c'est un des gros sujets. Je ne pense pas qu'il y ait réellement une volonté d'arrêter d'organiser des grands festivals en plein air parce que le risque météorologique pourrait être potentiellement augmenté. Bon, le risque météorologique, on l'a aussi vu sur d'autres festivals cet été, il est heureusement relativement limité, il peut être horriblement chiant pour parler platement, on l'a vu aux Solidarités, des parkings inondés parce que pluie diluvienne avant, on l'a vu à Ronquière, une dernière journée cataclysmique parce que des pluies diluviennes, mais alors là sur une période de surcroît particulièrement longue. On l'a vu dans une moindre mesure le même jour que l'annulation des Ardentes, c'est l'obligation pour la CEMO de fermer son site pendant 2 heures parce qu'on avait des craintes sur ce qui allait se passer.
Et parfois aussi des chaleurs extrêmes où là on voit que parfois les infrastructures sont quand même assez défaillantes en termes d'eau, par exemple, d'hydratation. On voit que c'est aussi quand même quelque chose de très problématique.
Hein. Je pense que les questions, elles vont se poser, mais elles vont se poser individuellement. Il y a en tout cas pas de volonté en Belgique ou ailleurs de dire ça va devenir trop risqué en l'état, on va arrêter. Maintenant, je pense que beaucoup d'organisateurs de festivals individuellement vont se poser certaines questions, notamment en rapport avec la topologie de leur festival, sa situation géographique, les risques vraiment inhérents. Est-ce qu'on est dans une cuvette ? Est-ce qu'on est en hauteur ? Et ainsi de suite. Ce débat-là, il existe évidemment.
Et dans ta présentation, tu as glissé déjà quelques chiffres sur les fédérations, le nombre de festivals. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup plus qu'on ne se l'imagine pour un pays quand même comme la Belgique, on rappelle, 11 millions d'habitants, petit pays. Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres pour la Belgique ? Parce que je pense que ça a l'air d'être assez colossal.
Alors, des chiffres que je peux vous donner, mais avec quelques réserves d'usage, parce qu'effectivement, la grosse question, avant de les compter, c'est qu'est-ce qu'un festival de musique ? Est-ce que les fêtes de Wallonie, qui ont une offre musicale pléthorique, sont un festival ? Comment compter un festival ? On sait que, par exemple, le Centre culturel René Magritte à Lessines organise le Roots and Roses, qui est un super cool festival. Le Botanique à Bruxelles organise les Nuits Botta. Même chose, c'est un festival, mais qui sont organisés par des salles. Est-ce qu'une brocante musicale est un festival ? Donc voilà, il y a forcément, comme dans tout milieu professionnel, des facteurs qui vont déterminer cette idée que voilà, un festival, c'est un opérateur qui a pour volonté et pour activité principale d'organiser un rassemblement de concerts d'au moins 7 concerts par jour, avec l'idée d'avoir un investissement financier également minimum. Sur cette base-là, parce que les chiffres qu'on peut trouver sur Internet varient énormément sur base de la définition de départ, on estime qu'il y a un petit peu plus de 400 festivals en Belgique.
400 ? Enfin, je ne sais pas, c'est peut-être une question bête que... Enfin, je pense qu'Amaury et moi, on se la pose. Et je pense que pas mal de gens se la posent. Quand tu me dis qu'il y a 400 festivals en Belgique, est-ce que ça ne pose pas la question, n'y a-t-il pas trop de festivals en Belgique ? Parce que je ne peux pas imaginer que la France, l'Angleterre, l'Allemagne, pour prendre trois grands pays qui nous entourent, sont sur un tel ratio de festivals au kilomètre carré. Ce qu'on vit en Belgique est quand même une situation, je pense, inédite. En Europe, si pas dans le monde.
Oui, voilà. C'est vrai que pour la Belgique, on a une situation de concentration due à la taille du territoire qui va forcément poser des questions de concurrence à tout moment. Effectivement, en France, organiser des festivals en région lilloise et Marseille en même temps, ça ne va pas être un gros problème parce qu'ils ne vont pas être rivaux. Le trajet est trop long. On l'a vu par exemple ici récemment, avoir le même week-end les Solidarités à Namur et Sainte-sur-Sambre en Tudigny, donc dans la région de Charleroi, c'est-à-dire à 45 km l'un de l'autre, on peut supputer que les deux festivals peuvent se vampiriser en termes de public. Le fait est que globalement, même si on a l'impression que le nombre est très important, ça fonctionne. La demande est là, il y a quand même très très peu de festivals qui disparaissent ou qui arrêtent les frais. Bon, ici, on a eu des cas un petit peu particuliers post-pandémie, parce qu'on va pas se leurrer, la pandémie a eu un impact financier sur tous les opérateurs. Ne pas organiser une année, ça a un coût, parce qu'il y a des coûts fixes qu'on organise ou pas. J'ai envie de dire, un peu comme pour tout le reste, c'est le marché qui va déterminer si c'est tenable ou pas. Ce qu'on remarque quand même pour le moment, c'est qu'on a quand même encore de nouveaux acteurs qui arrivent en Belgique avec de nouvelles propositions ou des acteurs historiques qui viennent eux-mêmes avec de nouvelles propositions. Je pense que la plus visible, ça a été le Core Festival à Bruxelles, qui est donc co-organisé par les équipes de Tomorrowland et de Werchter. On est effectivement dans une logique de marché.
Et t'évoques le volet économique, mais est-ce que dans une fédération comme la vôtre, j'imagine que vous évoquez aussi le volet écologique, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, c'est une préoccupation qui est quand même de premier plan. Tu cites dans tes exemples un festival comme Tomorrowland qui, au-delà de la débauche annuelle de matériel, de scénographie, est un festival dont le principal attrait est de faire venir des quatre coins du monde des gens avec évidemment une empreinte climatique indéniable. Est-ce que c'est durable ? Est-ce qu'il y a aussi une volonté ou une nécessité de repenser le modèle ? Ne serait-ce que le modèle de base du festival qui est de dire on prend un champ et on amène tout, des toilettes, des bars, des scènes, on construit tout. C'est des modèles qui, pour certains en tout cas, sont jugés anachroniques, on va dire. Donc est-ce qu'il y a une réflexion qui est menée là-dessus ? Et surtout, est-ce que ce secteur a autant l'envie que la marge pour se réinventer ? Parce que c'est bien d'avoir envie de se réinventer. On se doute bien que les artistes doivent tourner. On se doute bien que le public doit se déplacer. Donc, est-ce qu'il y a une envie et est-ce qu'il y a une marge pour peut-être changer les choses ?
Alors, il y a une envie et une réflexion qui est en cours. Vous avez peut-être entendu parler du Forum Event Change qui a été lancé l'an dernier à Namur, qui aura lieu cette année-ci à Charleroi, qui vise à rassembler tous les acteurs du secteur culturel pour discuter de solutions pour littéralement diminuer l'empreinte carbone. Il y a aussi toute une série d'obligations légales qui sont apparues, notamment la fameuse directive européenne sur les plastiques à usage unique, parce que c'est une question, quiconque a été à un festival dans les années 90 se souvient comment on pouvait marcher sur une mer de gobelets plastiques écrasés.
C'est encore le cas en 2023, et c'est généralement dans les plus grandes organisations, avec, j'imagine, pour eux, des difficultés logistiques, encore une fois, parce qu'ils sont sur un champ et qu'ils n'ont pas les installations qui permettent le nettoyage.
Oui, 2023, année particulière, donc pour ce qu'on a appelé chez nous la loi Katabi, qui est donc la transcription de la directive européenne en droit belge, et qui prévoit sur plusieurs années la disparition des plastiques à usage unique, non seulement pour les gobelets, mais également pour les food containers, les pailles, les couverts, les canettes, comment est-ce qu'on va gérer les bouchons, les bouteilles,
etc. Il y a une période de transition donc, pour les festivals qui est prévue c'est l'année prochaine.
La loi prévoyait tout ça, mais en ce qui concerne les gobelets, effectivement, il y a eu une période de tolérance qui s'est appliquée l'an dernier parce que d'une part les stocks de gobelets à usage unique ils étaient constitués et ils étaient titanesques et d'autre part se pose quand même la question aussi de l'impact écologique réel pour des plus grosses structures d'avoir des stocks de gobelets réutilisables, de la cadence de lavage et dès lors de leur utilisation réelle sur site, puisqu'un gobelet réutilisable ne devient réellement moins impactant d'un point de vue écologique que quand il a été lavé 7 fois comparé à un gobelet à usage unique. Et donc effectivement, l'ironie veut que, surtout l'an dernier, on a vu un grand retour des gobelets à usage unique, puisque le mot d'ordre, notamment venant de certains brasseurs, était « Dégagez-nous ces putains de stocks le plus rapidement possible, merci ». Ouais, mais donc ça, ce sont des anomalies, j'ai envie de dire, entre la vie économique, les obligations légales et la réalité de terrain. Donc personne ne s'est dit « Ah super, on va revenir à l'ancienne au moins pendant un an, ça va être la fête ». Non voilà, ces stocks, j'ai envie de dire, leur empreinte carbone, elle était déjà marquée au moment de la décision.
Mmh. Allez, ça fait déjà longtemps qu'on parle quand même de festival. Pour terminer, allez, quand même, pour être sur une note plutôt positive, j'aimerais que peut-être chacun, ici autour de cette table, recommande à nos auditeurs un festival à tester absolument, que vous avez testé peut-être récemment et que tout le monde se devrait de faire au moins une fois dans sa vie. Alors on commence par toi, Amaury.
Oui, ben je ne rate jamais l'occasion de dire du bien de ce festival qui est un de mes préférés en Belgique, qui est le Microfestival.
À Liège, donc.
À Liège, donc vraiment un festival urbain avec une affiche à la fois pointue et éclectique. Mmh. Franchement, avec énormément de découvertes, un site qui reste à taille...
Micro,
oui.
Avec je ne sais pas quelle est la jauge, mais on n'est pas sur
2500.
2000-2500 personnes environ. Ouais.
Donc, des scènes très bien, très jolies, très bien décorées, une bonne offre food, et puis des gens formidables.
Des Liégeois.
Oui, voilà.
Ben ouais, le micro, excellente suggestion. Et toi, Didier ?
Moi, je parlerai de la Nature Festival qui se tient à la Baraque Friture, donc près de Vielsalm, qui est un festival relativement jeune, dans un lieu idyllique. Bon, je crois que tout est dans le nom du festival et avec une programmation relativement pointue, très axée sur la découverte, l'expérimentation. De surcroît mené par une équipe fort sympathique.
Comme vous avez été tous les deux dans quelque chose d'assez micro et minimaliste, moi je vais peut-être essayer de suggérer quelque chose d'un petit peu plus grand, parce que bon, on a tous entendu parler du Primavera, le Primavera Barcelone et Feu Madrid, parce que j'ai appris que l'édition madrilène qui s'était tenue pour la première fois cette année ne sera pas reconduite en l'année prochaine, sont des exemples de gigantisme qui, moi, me dépassent avec des vingtaines, 20, 25 minutes pour se déplacer d'un côté à l'autre du site. Enfin, c'est un anti-festival pour moi. Par contre, je me dois de conseiller à tout le monde l'édition portugaise qui se tient chaque année à Porto. Elle est sur 4 scènes en plein air. On a le temps de se déplacer, on a le temps de voir des concerts. C'est une affiche réduite, certes, mais bon, à Barcelone, de toute façon, on ne sait quand même voir que le tiers du quart de ce qu'ils nous proposent. Là, on a le sentiment quand même d'en avoir pour son argent. C'est le Portugal. Ça ne coûte pas extrêmement cher. La bière est à 2,50 €. Et pour ceux qui ont fait un festival cet été, une bière à 2,50 € en festival, ça ne se refuse pas. Et on passe vraiment un excellent moment. Bien, j'aimerais maintenant que l'on parle, Didier, de ce qui est ton activité principale, ton poste de directeur du Vecteur, le lieu qui nous accueille aujourd'hui. Alors, première chose, peut-être nous présenter rapidement le lieu et aussi comment celui-ci s'intègre dans un écosystème, on va dire local et pourquoi pas régional.
D'accord. Donc le Vecteur, c'est une plateforme culturelle pluridisciplinaire. Donc on va y aller mot par mot. Plateforme parce que c'est un bâtiment qui, en son sein, accueille non seulement l'ASBL Orbital qui pilote le projet culturel, mais accueille également toute une série d'autres opérateurs culturels qui y ont leurs bureaux, leurs locaux pour des tarifs en deçà de ceux du marché immobilier de Charleroi. Culturel, ben voilà, parce que nous sommes une ASBL qui a une mission à caractère culturel, pluridisciplinaire, parce qu'on touche effectivement à plusieurs aspects de la culture. Donc, beaucoup de gens nous connaissent pour l'aspect musique, mais on a des temps longs en art plastique, puisqu'on a la possibilité d'accueillir des résidences, qu'on a un lieu d'exposition. On a également un aspect littérature, puisqu'on a un festival littéraire qui se tient en octobre-novembre et qui s'appelle L'Ivresse, et qu'on touche également à pas mal d'autres choses, des projections, une fête de quartier, etc. Charleroi, c'est quand même une ville où il se passe pas mal de choses, de plus en plus de choses, et qui a un avantage culturellement parlant de voir l'extrême majorité de ses acteurs se parler et essayer de travailler ensemble sur des projets, ou tout au moins éviter, comme on le voit parfois trop dans d'autres villes, de se marcher systématiquement sur les pieds. Donc oui, on peut citer le Rockrill, on peut citer l'Eden qui est le centre culturel, et ainsi de suite.
Oui, donc tu cites tous ces lieux qui ont une identité culturelle forte à Charleroi et qui ont de plus en plus d'ampleur. Je pense aussi au Quai 10, au côté cinéma, qui fait vraiment un beau boulot du côté de l'art et essai. La question que je me demandais, c'est est-ce que les Carolo vraiment du centre et peut-être du grand Charleroi s'approprie encore assez ces lieux culturels? Vous arrivez vraiment à rentrer à la rencontre du public?
Alors je dirais que, comme dans bon nombre de villes belges, à Charleroi, je pense qu'il y a une sorte de bulle de cultureux, entre guillemets, donc des plusieurs centaines de personnes qu'on va retrouver absolument partout chaque semaine. La majeure partie de ces lieux ont également leur public propre, qui va peut-être être un petit peu moins... un peu moins mobile entre les différents lieux. Mais oui, on va pas se leurrer, on a encore des difficultés pour toucher certaines parties du public Carolo, et on se rend bien compte que pour certaines personnes, mentalement, passer la porte d'un lieu de culture reste un obstacle symbolique.
Et je trouve que aussi évoquer le Vecteur, tu parles de cette difficulté déjà de toucher certains publics locaux, mais je trouve que c'est aussi, je trouve en Belgique du moins, peut-être évoquer la difficulté que peuvent avoir certaines villes, on va dire, de province par rapport à la capitale, Bruxelles en l'occurrence. Je pense que c'est quand même une problématique qu'on connaît dans tous les pays d'Europe, mais en Belgique, vu la taille du pays, est-ce que pour vous, ça rend la situation encore plus compliquée en termes de pouvoir, de conviction de public, mais aussi peut-être en termes de difficulté de programmer certaines choses? Parce que pour un Belge, Charleroi est extrêmement loin de Bruxelles, mais pour un artiste anglais, américain et son booker, n'en parlons pas, bah, Charleroi, c'est peut-être la périphérie... Pourtant, l'aéroport de Charleroi est Bruxelles-Sud. Par contre, culturellement, on a l'impression que faire venir jouer un groupe à Bruxelles-Sud, c'est plus compliqué. Il faudrait peut-être vendre comme ça les bookings aux agents. Mais plus sérieusement, ouais, cette difficulté d'exister par rapport à la capitale.
Elle est très présente et je pense qu'en matière de booking, elle découle aussi de 30 ans de passif. On se leurre pas par rapport à des bookers internationaux, voire à des bookers néerlandophones, puisque en Belgique, l'essentiel des grosses maisons de booking sont côté flamand. Oui, à offre égale, on va pas, en tant que Carolo, pouvoir réellement concurrencer Anvers ou Gand. Parce que voilà, il y a cette image que c'est plus intéressant pour pas mal d'artistes d'aller jouer à Anvers ou Gand que d'aller jouer en Wallonie. Maintenant,
c'est pour toi, c'est un fait accompli, ou est-ce qu'il y a une volonté de se dire les choses, elles peuvent encore changer?
Mais je pense que les choses peuvent changer.
Et elles changent,
maintenant,
peut-être.
Maintenant, on a des exemples pratiques de ça. On va pas citer de noms, mais des cas ou de figures où on a rentré pour des artistes internationaux des offres, qu'on voit ces offres refusées, mais qu'on voit les artistes ressurgir dans des salles flamandes. Bon, bah, évidemment, on les connaît, ce sont nos collègues, donc sur un ton badin, se dire ok, ils ont sans doute payé nettement plus, et puis poser la question pour se rendre compte qu'en fait ils ont payé moins. Donc on est arrivé parfois même dans des logiques où le booker va privilégier une autre ville au détriment des conditions économiques qui peuvent être proposées à l'artiste pour des raisons qui parfois nous échappent. On a, et une fois de plus je ne citerai pas de nom, je ne voudrais pas m'attirer l'inimitié, mais on a eu une visite ici d'un gros booker néerlandophone pour visiter les lieux. C'était la première fois qu'il venait à Charleroi, la première fois qu'il visitait le Vecteur. Et je me souviens avoir eu une conversation qui a fini en borderline émerveillé, parce qu'à peu de choses près, on avait l'eau courante et l'électricité, et je ne caricature pas. Donc de se dire, ah oui, mais en fait, c'est super, on devrait bosser ensemble. Et là, effectivement, notre réaction est de dire, c'est quelque chose qu'on pense depuis plusieurs années. Maintenant, ça n'empêche pas... Ça n'empêche pas d'avoir quand même des concerts très sympas et de réussir aussi à avoir des artistes internationaux ça et là. Et je pense qu'au Vecteur, on a quelques dates comme ça un petit peu mémorables où tout le monde est toujours en train de se dire « Ah, ces personnes-là sont venues chez nous, c'est quand même un petit peu foufou. » Je pense à Mike Watt des Stooges, je pense à Lirinaldo de Sonic Youth.
Ouais.
Voir des collabs qui ne se voient pas nécessairement, mais il y a quelques années, par exemple, Romeo Elvis était venu préparer la saison des festivals ici au Vecteur. Ouais, bon, forcément, il était, pour des raisons évidentes, pas envisageable de faire jouer Romeo Elvis dans une salle de 125 personnes. Mais voilà, il y a quand même des coups, des choses qui se passent, une vie qui est là. On est peut-être une ville de province, mais on n'est pas du tout dans un no man's land.
Et c'est un peu finalement cette envie de combat qui t'a poussé à accepter, enfin en tout cas à prendre ce poste, parce que toi tu viens, tu l'as dit toi-même, d'une association qui faisait du lobbying, c'était un peu la bulle européenne, bruxelloise. Revenir ici, retrouver tes racines au Vecteur, ça a été un choix facile, difficile, assez simple, qui s'est imposé.
C'est un choix qui a amené des tergiversations quand même, mais parce qu'effectivement c'est passé du tout au tout, c'est passé de... d'une optique assez globale sur des rythmes assez lents, parce que voilà, espérer des changements législatifs au niveau européen, il ne faut pas être trop pressé. On a généralement des projets à 4-5 ans par rapport à un projet qui est un projet de terrain où effectivement, très souvent, on peut se retrouver à se poser des questions sur ce qui va encore se passer l'après-midi, le soir, le lendemain. Voilà, moi j'habite à 10 minutes à pied du Vecteur, donc ça c'est quand même... C'est quand même assez chouette. Cette idée de passer du macro au micro, sans mauvais jeu de mots, c'était un challenge assez intéressant. Et je reste convaincu que par rapport à notre territoire, à la ville dans laquelle on est actif, on a une carte à jouer. Et c'est assez excitant, en fait, de pouvoir faire partie de l'équipe qui essaye de rebattre ses cartes. Mmh.
Ce podcast touche donc à sa fin, mais avant de terminer, quand même, Didier, c'est presque fini pour toi. Je vais te poser une ultime question rituelle dans ce podcast. Ce podcast, il s'appelle Game Changer. Alors pour toi, c'est quoi le prochain Game Changer? Ça peut être n'importe quoi, ça peut être n'importe qui, une personnalité, un événement, un artiste, une tendance, peu importe.
Alors ça, c'est assez facile comme question, je pense, et ce sera applicable au secteur de la musique dans son entièreté, c'est le développement de l'intelligence artificielle. On en voit déjà les premiers impacts. Mais je pense que ça va réellement révolutionner le secteur dans les 10 années à venir, tant en termes de création musicale qu'en termes de booking, de planification de tournée. Et donc, ça aura un impact sur les festivals, sur les salles de concert et aussi sur la rémunération des artistes. J'en ai bien peur.
Bien, merci pour ces nouvelles très réjouissantes. Voilà, c'est maintenant l'heure de se quitter. Non sans oublier, bien évidemment, de remercier Didier Gosset d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir aussi permis d'enregistrer ce numéro de Game Changer dans les installations du Vecteur à Charleroi. Vraiment un immense merci. Je remercie également Amaury, bien sûr, pour ce baptême du feu qui, je l'espère, s'est bien passé. Puis je vous remercie, vous, qui nous écoutez. Pensez, bien évidemment, à parler de Game Changer autour de vous et à nous mettre un maximum d'étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Et bien sûr, si vous avez aimé ce que vous avez entendu, pensez à nous soutenir sur la plateforme de financement Tipeee. Ça fait toujours plaisir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci Didier, merci Amaury et à bientôt pour un nouvel épisode de Game Changer.